Savoir ne suffit pas. C'est ma phrase fétiche, tu le sais si tu m'écoutes souvent. On sait tous ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour notre santé, mais bien souvent, c'est plus fort que nous et on ne le fait pas. Mais c'est quoi ça qui est plus fort que nous? C'est quoi ces mécanismes intérieurs qui nous amènent à saboter ce qui serait bien pour nous? Pour en parler, aujourd'hui, je reçois Claudia Baillargeon, kinésiologue, coach en saines habitudes de vie et animatrice du podcast Conversation Awesome avec Carmackine. Bienvenue dans Hypnoconscience. Le but de Hypnoconscience, c'est de te partager mes réflexions et mes trucs sur ce qui a amélioré ma vie et celle de mes clients. Partage avec les gens autour de toi pour que le plus de gens puissent bénéficier de ces informations totalement gratuitement. Salut Claudia, comment tu vas?
Salut Pascal, ça va super bien, merci. Et toi?
Good, super bien. Je suis content de te jaser ce matin. Je t'ai rencontré dans le groupe de réseautage Réseau Actif, qui est un groupe de réseautage super intéressant parce que moi, pour en faire partie depuis déjà presque 3 ans, je trouve qu'il se crée des liens plus forts que les autres groupes de réseautage que j'ai déjà vus. Puis en plus, ça me rejoint plus parce que c'est actif. Fait que souvent, on fait du
Exact.
sport à travers ça. Fait que je pense que ça te rejoint toi aussi parce que tu es coach en saines habitudes de vie, kinésiologue, podcasteuse, en tout cas, toutes sortes de choses que j'ai déjà dit. Je vais te laisser un petit peu nous parler de ce que tu fais exactement. Et qui un peu est ta clientèle à travers ça dans ce coaching de saines habitudes de vie-là?
Merci. Effectivement, moi aussi, c'était le terme actif dans le groupe Réseau Actif qui m'avait attiré pour le groupe de réseautage. Parce qu'effectivement, moi, je suis dans le domaine de la santé, du bien-être, du sport, de l'entraînement, des saines habitudes de vie depuis toujours. J'ai commencé avec mon sport, ma première passion qui était le patinage artistique. Fait que très, très jeune, j'ai commencé à coacher d'autres patineurs, à les aider. Puis j'ai trouvé ça donc bien merveilleux d'utiliser ma passion, mon expertise pour faire une différence concrète. Tu sais, que la personne soit capable de faire un saut ou un spin de plus grâce à moi, tu sais. Fait que j'ai commencé dans ce domaine-là, j'ai commencé à faire des cours de conditionnement physique en hors-glace aussi, j'ai fait mon bac en kinésiologie, j'ai fait un DSS en kinésithérapie, puis j'ai travaillé vraiment dans mes premières années avec une clientèle super variée. Donc, que ça soit une petite fille de 2 ans qui veut apprendre à sauter par-dessus un petit bâton. Et je vais toujours parler de mon client Jean-Paul, que j'ai commencé à travailler avec lui à 80 ans, qu'on lui a redonné 8 ans de sa vie. À la fin, il faisait des deadlifts puis des tirades au TRX, tu sais. Puis, tout, everything in between, comme on dit en anglais. Fait que ça soit des gens qui sont sédentaires, qui veulent devenir actifs, que ce soit des gens qui veulent perdre du gras, des gens qui veulent reprioriser leur santé puis qui savent pas comment. Fait que c'est vraiment tout ça que j'ai touché dans les premières années avec des cours de groupe, de l'entraînement privé, à domicile. Tu sais, j'ai vraiment touché à plein de choses. Et à la fin de mes études universitaires, donc fin 2013, je suis partie avec un billet aller simple en Australie et j'ai commencé ma vie nomade. Donc, ça fait 10 ans que je voyage beaucoup. Et quand j'ai commencé à voyager, moi, je voulais toujours ma propre business. T'sais? Puis, quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit, ben là, je ne peux pas m'ouvrir un gym ou m'ouvrir un centre de performance parce que je vais être pris là, géographiquement parlant, puis je ne pourrai plus voyager. T'sais? Fait qu'à travers ces premières années-là de voyage, de vie nomade, je me suis formée en coaching en nutrition aussi avec Precision Nutrition. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires à la fin de ma carrière de patineuse, début vingtaine. Donc, j'ai passé à travers ça aussi personnellement. Fait que j'ai plongé dans ce pilier-là, qu'est la nutrition, le quoi de la nutrition, mais aussi la relation avec la bouffe. J'ai vécu toutes sortes de choses par rapport à mon développement personnel, des coachings en mindset. Puis bref, c'est vraiment pendant un voyage, je me suis dit, hey, je pourrais me lancer une business en ligne. Ça, c'était en 2016. Fait que c'était beaucoup moins commun qu'aujourd'hui de travailler en ligne.
Ça
Fait
fait
que
quand
c'est là
même
que j'ai
un bout.
lancé. Exactement. Fait que c'est là que j'ai lancé Carmackine, qui est mon entreprise actuelle de coaching. en mode virtuel 95 % du temps. Donc, j'ai continué à voyager un peu quand je veux, où je veux là, dans les dernières années. Puis aujourd'hui, ce que je fais, ça a vraiment deux volets. Donc, d'un côté, j'aide les gens, c'est surtout des femmes avec qui je travaille, qui veulent optimiser leurs habitudes de santé avec une approche qui est dans la bienveillance, qui est dans la progression, pas la perfection, et qui est très holistique. Donc, c'est du mouvement, c'est de la nutrition, c'est du mindset, c'est de la gestion de stress. Je suis aussi praticienne en Reiki, donc on intègre du Reiki là-dedans, avoir un meilleur sommeil, etc. Et j'individualise vraiment selon la personne, son profil, ses antécédents, ses objectifs, sa réalité quotidienne aussi, qui est un gros facteur là, dans l'intégration des habitudes de vie. Et de l'autre côté, ben, je fais aussi des conférences, des ateliers et de l'accompagnement pour les entreprises. Donc, on prend vraiment en charge des équipes de travail, on les aide à améliorer la santé de leurs ressources humaines de façon vraiment efficace puis pratique pour qu'effectivement, ben, ça aide la santé de chaque individu. Encore avec la même approche, là, d'avoir des meilleures habitudes de vie au quotidien, mais évidemment, ça aide aussi de l'entreprise, que tu sois entrepreneur ou que tu sois justement à la tête d'une organisation pour qu'il y ait plus de productivité, d'énergie, de rentabilité, de vitalité là, au sein des milieux comme ça, plus de business.
OK. Est-ce que tu vois des vagues dans le sens où, mettons, 1er janvier, là, tout le monde t'appelle parce que c'est la résolution. Là, finalement, un mois, deux mois après, il y a moins de monde parce que les jeunes n'ont moins. Puis là, bon, on est début mars, au moment où on se parle. On sait que dans les prochaines semaines, prochains mois, là, les gens vont voir l'été arriver. Fait que là, ils vont dire, oh mon Dieu, il faut que je perde du poids, il faut que j'arrête de boire, faut que. Tu sais, les sens-tu, ces vagues-là, dans ta clientèle?
Depuis que je fais ce type de coaching-là très holistique et en virtuel, beaucoup, beaucoup moins que quand, par exemple, je travaillais dans des gyms ou que je faisais juste de l'entraînement personnel ou juste de la kinésiologie. Je le sens moins maintenant parce que, un, c'est pas dans mon approche, c'est pas dans mon marketing, c'est pas dans ma philosophie d'être en mode perte de poids ou d'être en mode tu as 30 jours pour atteindre tel objectif. Moi, c'est vraiment comment on crée des choses durables. Que tu sois à Cuba en voyage ou que ça soit Noël puis que c'est le temps des fêtes ou que ça soit une semaine bien normale dans ton quotidien, tu continues à intégrer des saines habitudes de vie dans toutes les sphères de ta santé. J'ai beaucoup de clientes avec qui on ne travaille même pas l'aspect entraînement. Fait que je trouve que souvent, cette vague-là, on la ressent justement dans les gyms où tu sais, les gens qui vont vouloir trouver la méthode rapide ou la méthode qu'on est habitué d'entendre pour justement s'en mettre en forme, perdre du poids. Fait que je la ressens beaucoup moins dans cette façon-là de coacher puis cette plateforme-là, c'est sûr. Mais c'est très présent encore.
Ouais, parce qu'on sait que c'est pas le vrai gros problème, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire. C'est de le faire. Puis c'est un peu notre sujet aujourd'hui, puis ça fit avec ma phrase fétiche. Je me suis même fait faire des t-shirts qui dit « savoir ne suffit pas ». Parce que moi, je le vois beaucoup en développement personnel. Les gens ont fait des ateliers, des formations, ils ont lu des livres. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là-dedans. Ils arrivent pour me voir, ils pleurent, ils disent « ça ne marche pas ». Le problème, c'est que tout est dans la tête. Ils ont énormément de savoir, mais ne sont pas capables de passer à l'action réellement pour toutes sortes de raisons. Puis c'est ça un petit peu qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, tu l'as nommé, c'est des saines habitudes. Il faut que ça devienne une habitude. Donc, une habitude, ça veut dire que c'est quotidien, c'est régulier, c'est répétitif. Et pour ça, ben, ça demande surtout des changements au niveau psychologique. Ce qui est aussi mon domaine. Bon, tu fais du coaching, j'en fais aussi. Donc, l'idée, c'est de dire aux gens, oui, mais c'est quoi que tu fais au jour le jour? Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Pourquoi c'est pas déjà atteint? C'est quoi les ressources que tu as de besoin? Puis j'aimerais qu'on tourne un petit peu à travers ça. Toi, qu'est-ce que tu rencontres quand les gens disent « je le sais qu'il faudrait pas que je mange telle affaire, mettons des chips, mais c'est plus fort que moi. » Ça, on l'entend souvent, c'est plus fort que moi. « Je le sais qu'il faudrait que j'aille au gym, mais après tant de fois, là, oh, le soir, je suis fatigué, puis finalement, je me trouve 56 raisons pour pas y aller. » Puis on sait très bien que les raisons, souvent, c'est pas vraiment les bonnes, là, celles qu'on intellectualise, si on veut. Donc, qu'est-ce que
j'adore
tu vois,
ta question. J'adore ta question, puis effectivement... On le sait, tu sais, les gens, là, ils ne m'engagent pas pour que je les convainque que boire de l'eau, c'est important, puis que bouger dans la vie, c'est bon pour la santé. On le sait, mais pour plusieurs raisons, facteurs, on ne le fait pas. Puis c'est comme tu l'as dit, c'est là le core du coaching, c'est d'aller voir c'est quoi ces raisons-là. Une première raison, c'est une sous-catégorie, mettons, d'excuses ou des choses qu'on perçoit comme un obstacle. Par exemple, j'ai pas le temps, je suis pas motivée, je suis trop insérons le terme qu'on veut. Là. Je suis trop blessé, je suis trop vieux, je connais pas assez de choses, je suis trop faible, je passe en forme. Mm-hmm. Fait que ce genre d'excuses-là qu'on se donne à soi-même en lien avec notre quotidien ou en lien avec qui on est, qui nous empêche même de commencer, de débuter, de l'essayer.
Mm-hmm.
Puis après, tout dépendant c'est quoi l'excuse ou la raison ou la perception qu'on a de soi-même ou de son quotidien, bien, c'est d'aller défaire ça, d'aller se mettre un miroir un peu puis de vraiment voir, OK, ben ça vient de où cette croyance-là, cette excuse-là? Où est-ce que tu as appris ça? Est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'as pas mm-hmm. le temps? Tu sais, je vais prendre l'exemple, j'ai pas le temps, parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir dit ça à voix haute dans notre passé ou dans notre présent. Moi, ce que je propose de faire, c'est un peu comme un journal alimentaire. Ben, écris tout ce que tu fais dans une journée. C'est du moment où est-ce que tu te réveilles le matin au moment où est-ce que tu vas dormir le soir. Puis c'est pas l'exercice le plus fun à le faire, mais c'est tellement révélateur. Fait que, tu sais, je me suis réveillée à 6 heures. Bon, de 6 heures à 6 heures et 10, j'ai snoozé. De 6h10 à 6h20, ben, j'ai fait mon lit, j'ai pris ma douche, je me suis habillée. De 6h20 à 6h40, j'ai perdu du temps sur Facebook. Peu importe. Mm-hmm. Puis faites ça pendant une couple de jours et vous allez voir à quel point c'est pas nécessairement un manque de temps. C'est probablement une mauvaise utilisation de votre temps. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un exemple pour le temps, mais c'est des choses qu'on peut faire pour n'importe quelle excuse qui ressort. Puis après, ben, en fait, selon la...
Tu leur permets, en faisant ça, de défaire la croyance. Parce que si exact. J'ai une croyance que je n'ai pas le temps, mais qu'une fois que je l'ai d'en face, ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps ou je sabote mm-hmm. mon temps,
ben là, je ne peux plus
me raconter l'histoire. Parce que moi, ce que j'appelle, c'est des mécanismes de défense en psychologie, l'intellectualisation, la rationalisation, c'est une façon de trouver une explication que on se convainc que c'est vrai. Pour ouais. camoufler quoi? Une émotion qui est en dessous parce qu'on ne le fait pas.
Mm-hmm.
Qui est ouais. souvent la culpabilité ou mm-hmm. certains ouais. malaises, une certaine honte à ne pas le faire.
Absolument. Tu sais, puis l'autre sous-catégorie de si on le sait qu'on le fait, mais pourquoi qu'on ne le fait pas, ben, je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en eux ou qui ont justement ce manque de confiance-là en leur propre capacité à créer le changement. Fait que ça commence là parce que t'as beau avoir toutes les stratégies inimaginables, puis trust me, j'en ai des stratégies pour te faire bouger. Là. Tu peux mettre mm-hmm. ça dans ton agenda, tu peux avoir une motivamie, tu peux sortir ton tapis la veille puis tes souliers de course, tu peux avoir un coach qui donne un programme spécifiquement pour toi. Mais si fondamentalement, tu crois pas que t'es le genre de personne qui est capable de devenir active au quotidien, mais mm-hmm. ça ne durera pas sur le long terme. Tu vas finir mm-hmm. par t'auto-saboter, tu vas perdre l'habitude avant même que l'habitude soit créée et tu vas trouver des raisons dans ton quotidien, inconsciemment ou consciemment, pour prouver que, ben non, tu n'es pas une personne qui est capable d'être active. Fait que je pense que c'est souvent là qu'il faut commencer. T'sais.
Fait que tout vient s'entremêler, les croyances, les perceptions qu'on a de nous autres, parce que j'ai mm-hmm. vu qu'en psychologie, l'autodétermination, il y a trois facteurs principaux. Et un de ceux-là, c'est nos capacités. Dès que tu ne comprends pas que tu as les capacités de le faire, ton autodétermination drop. Puis il y en a un autre, tellement. C'est l'autonomie. Donc, plus tu es libre de faire ça et que ton cadre est large, plus tu le fais, plus tu as des restrictions, moins tu vas avoir, on va dire, ouais. la motivation ou l'autodétermination mm-hmm. de le faire. Fait que c'est important de croire en ses capacités. Puis une de ces ouais. stratégies-là, c'était de commencer ce que j'avais appris plus petit. Souvent, mm-hmm. on regarde trop loin. On regarde ouais. l'objectif final ou on se met des objectifs trop élevés, ce qui fait qu'on ne ressent pas la capacité. Alors qu'en divisant l'objectif, ou j'appelle ça les barreaux de l'échelle, là, on regarde le premier barreau, on ne regarde pas mm-hmm. le dernier, puis quand tu auras fait le premier, on fera le deuxième.
Exact.
Là, tout l'émotionnel, le sentiment de capacité devient augmenté, donc l'autodétermination mm-hmm. embarque.
Absolument. T'sais, moi, j'aime bien dire que la compétence précède la confiance. Mm-hmm. Si tu me dis, hey, Claudia, j'ai un groupe de 20 personnes demain qui veulent apprendre à jouer au golf, tu viendrais-tu nous faire une démonstration puis nous expliquer pendant une heure comment bien jouer au golf? Ben, j'ai zéro compétence dans le golf. Fait que c'est okay. sûr que je ne vais pas avoir confiance en moi. Je ne vais pas vouloir aller faire cette action-là de coacher 20 personnes sur le golf. Par contre, tu me demandes la même chose pour un groupe qui veut apprendre à faire du patin artistique. Bien, tout de suite, je dis oui parce que j'ai les compétences en patin artistique. Ma confiance est là. Je vais y aller. Je vais faire l'action. Fait que si toi, en ce moment, tu n'as pas la compétence d'être capable de conserver une bonne habitude de vie, bien, ta confiance, ça ne sera pas là. Fait que si l'habitude de vie que tu veux développer, c'est t'entraîner une heure par jour au gym, 7 jours sur 7, puis que tu n'as jamais fait ça de ta vie, bien, tu n'auras jamais les compétences parce que tu ne pourras pas la faire assez souvent, l'habitude, parce que tu vas te décourager. Fait que ta confiance, ça ne viendra jamais. Versus ce que tu viens de super bien expliquer, si tu commences avec 3 fois 10 minutes de marche par semaine, puis que, regardons ça, la première semaine, tu réussis. Puis la deuxième semaine, tu réussis encore. Mais tu développes la compétence, tu deviens cette personne-là, parce que le changement d'identité est super important aussi. Ouais. Tu deviens cette personne-là qui est capable de marcher 3 fois 10 minutes par semaine. Bien, regardons ça, comment ça booste ma confiance. Je commence à croire là, que peut-être que finalement, un mode de vie actif, c'est réaliste pour moi. Et là, on peut monter à 3 fois 15 la semaine suivante ou à 4 fois 10. Et souvent, ce discours-là, on va avoir une espèce de réaction, les gens qui vont rouler un peu des yeux en voulant dire, ben là, ça fait-tu vraiment une différence tant que ça de marcher 3 fois 10 minutes, de respirer consciemment 1 minute par jour, de dormir 10 minutes plus tôt? Ben oui, parce que c'est l'effet cumulatif de tous ces petits changements-là, ces petites habitudes-là qui vont créer l'effet papillon, qui vont créer des changements durable dans ton quotidien, tu sais?
Oui, puis c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu le fais comme ça, tu parles des résultats, c'est qu'un coup que tu touches les résultats, puis je l'ai déjà vécu, ça devient, c'est là que l'habitude s'installe, parce que ton cerveau fonctionne par association. Donc, si aller t'entraîner égale souffrance, il ne va pas vouloir y aller, parce que nos cerveaux sont paresseux. On est des êtres fondamentalement paresseux. Et lorsque tu touches un certain bien-être et que progressivement l'association cognitive devient « Oh, tel exercice égale, je me sens bien, j'ai des endorphines, tout ça après », ben tranquillement, ça vient jouer. Puis il y a différents effets qu'il va y avoir. Exemple, si tu perds du poids, justement, ben le fait de te voir dans le miroir avec un peu moins de poids, « Oh, il y a un petit quelque chose qui vient jouer dans la motivation intrinsèque. » Moi, je me souviens à l'époque que j'ai commencé le gym, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des mois avant que, j'appelle ça la courbe, là, je suis balancé l'autre bord, ça me demandait un effort y aller. Ouais. Et à un certain moment, j'ai eu tellement de résultats, puis je me suis mis à aimer ça, que c'était l'inverse. C'est quand j'y allais pas que je me sentais pas bien.
Absolument.
Fait que ça s'est mis à jouer là-dessus. C'est là qu'il faut comprendre, tout est une question d'association. Au niveau du cerveau. Puis c'est là qu'on va aussi, par exemple, la nourriture, parce que c'est pas une question de compétence, la nourriture, dans le sens où puis ça m'est déjà arrivé concrètement, un ami qui me dit « Écoute, Pascal, il faut que tu m'aides, je suis plus capable, je mange un gros sac de chips par soir en arrivant de travailler. » Et ça, il savait très bien que c'était pas bien pour lui, mais c'était pas une question de compétence. Donc, comment tu gères ça au niveau plus nutritionnel?
Ouais. Et moi, j'en suis la preuve, là. J'étais kinésiologue, je travaillais dans des gyms, j'étais en train d'étudier à tous les jours en nutrition et j'avais ces comportements-là malsains, tu sais, au niveau de la nutrition. Fait que c'est pas parce que j'avais pas les connaissances puis je le savais pas que manger une boîte de biscuits au complet, c'était peut-être pas la meilleure chose pour ma santé, je le savais. Mais c'est là que ça devient vraiment un trouble au niveau de la santé mentale, tu sais, des certaines associations. Et j'ai envie de dire, je vais pas dire toujours, mais dans la grande, grande, grande majorité des cas, ça part d'une émotion. Fait que la première chose que j'aide mes clientes à faire, puis comment moi, j'ai réussi à vraiment guérir complètement mes troubles alimentaires depuis 2015, c'est quoi l'émotion que tu es en train de manger? Tu sais, là, on parle de le cas, par exemple, de ton ami ou de moi. Tu sais, moi, c'était beaucoup du binge eating qu'on dit en anglais, donc de se gaver, hein, de manger ses émotions. Moi, je ne suis pas psychiatre, psychologue, médecin, donc tout ce qui est anorexie, boulimie, c'est pas quelque chose que moi je touche, que j'ai vécu. Il y a un spectre de différents troubles alimentaires.
Ouais, c'est ça.
Fait que, quand on parle vraiment d'utiliser la nourriture pour gérer nos émotions, pour manger nos émotions, ben, c'est quoi l'émotion que tu manges? Puis de juste commencer par la nommer. Même si tu le manges quand même, le sac de chips, ben, c'est déjà une super belle victoire. Hey, je mange mon stress en ce moment. Ou je mange, moi, c'était beaucoup de l'ennui. Tu sais, je me sentais seule souvent. J'étais en Australie, je vivais une super de belle vie, mais il y avait beaucoup de moments que je me sentais seule à l'autre bout du monde. Fait que la nourriture est devenue comme mon compagnon, tu sais. Mm-hmm. On parlait de perfectionnisme, de culpabilité aussi ensemble. Mais moi, ça a commencé comme ça. En passant artistique, je m'étais développé tellement de mécanismes de je dois être parfaite sur la glace, je dois être parfaite dans mon solo, je dois être parfaite en hors-glace, je dois être l'étudiante parfaite. Fait que de temps en temps, j'ouvre la porte là, puis je me permets de ne pas être parfaite avec ma nutrition. Fait que let's go, je vais binger, puis je vais en profiter, puis je vais manger le plus de nourriture malsaine possible pendant ma fenêtre de 1 heure ou 2 heures que je me permets de ne pas être parfaite, parce que je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais me permettre de ne pas être parfaite.
C'est intéressant,
fait que moi, c'était
ça.
Beaucoup ça. Fait que c'est l'émotion qu'on mange derrière qui est souvent...
Je vais mettre un astérisque sur la perfection, là, les petites perfectionnistes que j'appelle, mais je veux revenir sur l'autre. Tu m'as parlé de la solitude. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai touché moi en 2019 où j'utilisais l'observation consciente pour essayer de trouver, mon Dieu, j'ai la poitrine qui me serre, je me sens triste, c'est quoi qui se passe?
Ouais.
Et j'ai fini par toucher que derrière, il y avait un sentiment de solitude. Mais pourtant, il y a un paradoxe dans ça, c'est que souvent, on est bien dans notre solitude quand même. Ouais. Moi, je suis très bien dans ma solitude, mais il y avait quelque chose qui... C'était un paradoxe. Autant j'étais bien, autant ça me nuisait. Et là, il y a une image de bouteille de vin qui a monté. Donc, je l'ai pris en note et j'ai été plus, j'ai observé plus précisément après ça dans ma vie et j'ai réalisé qu'effectivement, quand je me retrouvais seul, il y a une envie instantanée de bouteille de vin, tu sais, de vin qui montait, comme si c'était, comme tu dis, une ressource que je vais chercher qui me donne une dopamine ou qui me calme ou qui apaise cette espèce d'émotion-là qui était présente.
À 100 %. Ouais,
et quel autre tu vois souvent chez tes clientes, à part, mettons, la solitude? Quelle autre émotion?
Ouais. Tout ce qui est gestion du stress, de l'anxiété, surcharge mentale. Tu sais, on reprend l'exemple du verre de vin. Là, j'arrive de ma journée, j'ai une grosse journée au travail, il s'est passé X, Y, Z, comme je suis plus capable, je suis fatiguée. Ben, je vais aller chercher un apaisement, un réconfort dans... un bol de crème glacée ou dans un verre de vin ou dans un sac de chips, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi. Après, on a aussi des comportements compensatoires avec la nourriture, avec des émotions. J'aime pas dire négatif, positif, là, avec les émotions. J'aime dire les émotions peut-être plus agréables, confortables et peut-être moins agréables, plus inconfortables. Mais tout le spectre d'émotions a sa place, là, en tant qu'humain. Mais mettons les émotions qu'on associe à plus agréables. Ben, on va manger de la célébration. On va boire un succès. Fait que c'est pas de dire c'est mauvais ou c'est mieux ou c'est pire de manger nos émotions, etc. Mais c'est l'intention derrière qui est super importante. Parce que le problème, c'est pas le sac de chips, c'est pas la bouteille de vin. Le problème devient quand c'est plus fort que toi, quand ça devient ton mode de soit un mécanisme de défense ou ton mode de compensation par défaut, que c'est un automatisme qui est créé, qu'aussitôt que tu te sens seule, stressée, c'est contente, toute seule, bien, tout de suite, il y a une association qui est là. Puis quand tu n'es pas capable de défaire cet automatisme-là qui parfois devient une addiction, hein, addiction, bon, on parle de la nourriture, mais il y a plein d'autres addictions, c'est là que ça peut devenir problématique pour ta santé, autant physique que mentale.
C'est ça. Parce que ce n'est pas un choix conscient.
Exact.
Comme tu dis, c'est une association de compensation. Moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille par rapport à la nourriture. Là. C'est comme mon chum que j'ai aidé, qui n'était pas mon client, mais je l'ai amené à dire, OK, quand tu regardes le sac de chips là, vite comme ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi le chose? Puis là, il dit, ah, c'est réconfortant, c'est bon dans la bouche, parfait. Je dis, OK, ressens ça, mais pas trop. J'ai dit, quand tu l'as fini ton sac, comment tu te sens? Ah! Il dit, je me sens coupable, je me sens lourd, je me sens gros. Je dis, bon, là, dans les prochaines fois, tu ne vas pas te retenir. Tu vas le manger, mais tu vas focusser là-dessus. Je veux que tu prennes le temps de méditer la sensation de arc. Je suis lourd, je ne me sens pas bien, je me sens coupable. Et j'ai fait la même chose à l'inverse parce qu'il dit, je veux aller au gym, mais c'est que j'aille ça. Fait que j'ai dit, comment tu te sens quand tu vas au gym? Ah, je trouve ça lourd, je trouve ça plate. Je dis, comment tu te sens après? Ah, il dit, un coup que j'ai pris ma douche, il dit, je me sens assez bien, là. Il dit, je suis comme tout détendu. Je dis, ben là, tu vas focusser là-dessus.
Exact.
Ça ne s'est pas fait instantanément, mais à force de répétition, l'association dans son cerveau est devenue chip égale arc, puis gym égale, tu sais, il y a un bien-être. C'était pas parfait, il n'y avait pas vraiment le goût d'aller au gym, mais c'était moins pire. Et j'ai fait la même chose pour moi, parce que j'ai une intolérance au gluten, puis il y a plusieurs années, j'ai arrêté de boire de la bière. Mais j'aimais ça, la bière. Puis au début, quand je regardais les gens boire de la bière, ah, si, je trouvais ça dur, j'avais le goût d'en boire. Mais j'ai tellement focusé à associer boire de la bière égale vente ballonnée pendant 3 semaines de temps, qu'à cette heure, je regarde ça, puis arc, pas en tout, j'ai plus le goût du tout, de... Donc, l'association dans ma tête est devenue autre chose. Et ça, ben, c'est plate, mais soit il faut se faire accompagner ou il faut avoir les outils pour être capable de modifier ces associations-là.
Ouais.
Mais ça se fait, puis ça demande, comme n'importe quoi, temps et répétition.
Absolument. Puis il y a 2 choses que j'aime expliquer pour aider justement à soit accélérer ce processus-là de changement d'association, tu sais, au moins soi-même d'être capable de le voir différemment. Tu sais, en tant qu'humain, on cherche principalement à faire des choses qu'on est content de faire dans le moment puis qu'on est content que ça soit fait. On passe pas assez de temps à faire des choses qu'on n'est peut-être pas si content que ça de le faire dans le moment, mais une fois que c'est fait, là, on est content. L'entraînement ou, je sais pas moi, te lever plus tôt le matin ou commencer la méditation ou essayer un nouveau sport, tu sais, n'importe quelle habitude de santé, ben il faut passer plus de temps dans ce cadran-là. Puis vraiment, comme tu l'as dit, mettre l'emphase sur hey, une fois que c'est fait, bien, t'es-tu capable d'écrire ou de nommer? Moi, j'ai des clientes, là, ils se font des petits journaux de bord, puis à chaque fois qu'ils finissent un workout, à chaque fois qu'ils finissent d'avoir, je sais pas moi, fait un meal prep le dimanche pour leur semaine, à chaque fois qu'ils finissent une séance de respiration consciente, à chaque fois qu'ils finissent, bref, quelque chose qui leur font du bien, mais que c'est pas encore tout à fait intégré, qui ont besoin justement de cette motivation-là, puis ces outils-là, puis ces ressources-là, bien, ils écrivent littéralement l'émotion, comment ils se sentent. On se sent fier, on se sent satisfait, on se sent accompli, on se sent calme, on se sent énergisé. Parce que moi, j'ai bien beau de te le dire que tu vas te sentir bien après ton workout, ta méditation, mais c'est littéralement toi, tes mots, ton écriture qui a écrit ça hier ou avant-hier quand tu l'as fait. Fait que la prochaine fois que tu vas négocier avec toi-même que ça ne te tente pas de faire ton entraînement ou tu ne veux pas te lever tôt demain matin, bien, va lire tes propres mots. Puis plus tu focalises là-dessus puis que tu le mets papier-crayon aussi, il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Mais tu vas finir par te convaincre, puis ça va devenir une habitude.
C'est ça. C'est de trouver des pourquoi, en fait. Parce qu'au début, on a parlé des pourquoi tu le fais pas, puis défaire les croyances. Mais j'imagine que tu amènes les gens dans le pourquoi ils devraient le faire ou pourquoi ils veulent le faire. Parce que s'ils t'appellent, c'est parce que... S'ils te contactent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Comment ça fonctionne, ces pourquoi-là? Parce que on le sait qu'il y a des pourquoi qui ont moins de poids, si on veut, qui ont moins de puissance émotionnelle, puis il y a des pourquoi qui sont plus forts. Comment tu les amènes à toucher ces pourquoi-là?
Ouais, je fais faire un exercice à toutes mes clientes en début de processus, que c'est pas moi qui ai inventé, là, Start With Why, de Simon Sinek, entre autres, qui est un livre qui est super connu, tu sais. Puis c'est vraiment de te poser la question 7 fois plutôt qu'une. Fait que, tu sais, je leur pose la question, OK, pourquoi tu m'as contacté? Pourquoi tu veux du coaching Karmakin? Et la première réponse, le premier « why », il est souvent très en superficie. Pas superficiel dans le sens que c'est pas vrai, mais il est pas profond. Tu sais, c'est genre « je veux perdre du poids, je veux me remettre en forme, je veux avoir plus d'énergie, je veux me sentir mieux dans ma peau. » Puis c'est pas que c'est une mauvaise raison, mais c'est pas ça qui va « driver » ton action puis qui va te motiver quand tu vas être fatigué, que tu vas avoir une grosse semaine, qu'il va avoir des obstacles dans ta route ou que tu vas entendre les excuses que toi-même tu te donnes, tu sais. Fait qu'on pose la question 7 fois plutôt qu'une. OK, bien, pourquoi tu veux perdre du poids? Bien, parce que je ne rentre plus dans mes vêtements. OK? Puis pourquoi c'est important pour toi de rentrer dans tes vêtements? Bien, parce que quand je rentre dans mes vêtements, je me sens en meilleure confiance. Super! Pourquoi tu vas avoir une meilleure confiance? Bien, parce que quand j'ai une meilleure confiance, bien, je peux être, je ne sais pas moi, la leader que je veux être dans mon entreprise ou je peux être la maman que je veux être avec mes enfants. Pourquoi c'est important pour toi d'être la maman X ou d'être la leader Y? Fait que là, on part de « je veux perdre du poids » à hey, « moi, je veux être un modèle d'inspiration puis de leadership dans mon entreprise. Voilà. » Fait que le vendredi à 5 heures, quand tu t'étais dit que tu allais aller prendre une marche ou que tu allais faire ton entraînement, si tu fais juste te dire « ouais, moi, dans le fond, je veux perdre du poids », ben tu seras pas motivé le vendredi à 5 heures. Fait que qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire Bon, c'est-tu vraiment une marche ou un workout qui va m'aider à prendre, perdre du poids? Je peux faire ça demain. C'est pas la fin du monde si j'en saute un. Sauf que si tu dis, moi, je vais être un modèle de leadership, d'inspiration pour mon équipe de travail qui m'aide à faire construire mon entreprise, ben crois-moi que ce « why-là », il va faire en sorte que tu vas y aller faire ton entraînement puis tu vas y aller marcher.
C'est ça.
Fait que creusons. Puis souvent, on fait cet exercice-là, puis les gens vont pleurer et c'est tant mieux. Va chercher cette émotion-là qui t'appartient à toi. Puis des fois, on fait l'exercice puis on se rend compte que le « why » qu'ils pensaient, ça leur appartient même pas.
Ouais.
Tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir, Claudia, je veux courir 10 km. OK, super, c'est un bel objectif. Pourquoi? On se rend compte que la personne, elle ne veut pas pantoute courir 10 km, mais il y a plein de gens à son travail qui se sont inscrits à la course, genre à la fin de l'été, ou ça l'a vu dans plein de magazines ou sur des réseaux sociaux que de courir, ça l'aide à faire maigrir, ce qu'il faut, tu sais.
Ouais.
Des fois aussi, on se rend compte que notre why, quand on va le chercher le vrai, ben, il n'est peut-être pas aligné vraiment avec nous-mêmes, avec nos objectifs, tu sais.
Oui, je trouve ça intéressant. C'est ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps avec Guillaume Dulude dans sa formation de Précog, où il nous disait « Le monde qui focus sur le sentiment de motivation, c'est de la merde. » Parce que c'est pas constant. Il dit « La motivation, c'est des pourquoi. » Et là, il nous l'a vraiment élaboré en fonction des études. Par exemple, à un extrême, tu as les motivations extrinsèques, donc les pourquoi. L'extrinsèque, c'est que ça vient de l'extérieur. Exemple, l'argent. Je vais travailler, je déteste ça, mais j'y vais pareil. Pourquoi? Parce que je ne paye. Mais ce n'est pas la meilleure. Il dit, plus tu vas vers l'autre côté, qui est intrinsèque, mieux c'est. Puis la totalement intrinsèque, c'est quelque chose que tu fais, là, que tu n'as pas besoin de mettre à l'agenda. Là. Tu sais, je te donnais en préambule, ben, avant qu'on enregistre, mettons, vélo de montagne. J'ai pas besoin d'engager quelqu'un pour m'aider à faire du vélo de montagne. T'sais, oui, peut-être pour des techniques, mais dans le sens, j'ai pas besoin de le mettre à l'agenda. J'aime ça.
C'est ça.
J'y vais, puis ça fait partie de moi. C'est comme aller en nature, c'est comme nager dans un lac. C'est pas un défi. J'aime ça, je pourrais faire ça des heures. Mais entre les deux, il y avait trois choses différentes. Il appelait ça introjecter. Ensuite de ça, identifier et intégrer. Puis c'est comme si l'introjecté continuait de venir de l'extérieur, mais était plus fort parce qu'il y avait surtout une raison sociale. Exemple, je veux perdre du poids parce que je vais bien paraître. Puis les gens vont me trouver plus beau. Ça reste une motivation, mais c'est comme tu dis, c'est pas la top. Parce que les gens vont se dire, ah ben là, à soir, regarde, c'est pas une marche qui va faire la différence. C'est pas une fois où le gym va faire la différence. Identifier, c'était un petit peu plus important. Genre, ton médecin t'a dit, écoute, là, c'est grave, tu fais du cholestérol, tu as de la haute pression, si tu ne veux pas prendre de médication, ça presse, il faut que tu fasses telle chose. Whoop! Là, il y a quelque chose de logique, de solide derrière. Puis identifier va venir plus quand la personne va le ressentir. Exemple, comme je t'ai donné tantôt, je vais au gym, j'aime le feeling. C'est pas intrinsèque comme le vélo de montagne. Ça ne me tente pas tout le temps d'y aller au gym. Mais j'y vais. Fait que là, mais ça, c'est les why en dessous que tu vas chercher. Puis plus tu vas vers l'intrinsèque, comme tu expliques, quelque chose qui vient te chercher émotionnellement, bien, elle va être là, ton émotion de motivation, parce que tu vas avoir été capable d'aller la chercher. Tu sais, je trouve ça bien. C'est là, comme on disait tantôt, c'est psychologique. Ça n'a pas rapport avec la connaissance. Et c'est pas évident de le faire tout seul. Se faire accompagner, c'est un investissement qui est très peu coûteux versus ce que tu vas aller chercher en santé, en productivité, en toutes sortes de choses. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, mais plus au niveau financier, de dire, j'ai des gens qui me contactent, disent « Ah, j'aurais tellement besoin de tes services, puis tout ça, mais là, je t'en arrête de travail, j'ai pas d'argent, ah, là, j'ai pas assez d'argent. » Ben non, c'est justement, tant que tu vas être dans cet état-là, tu seras pas productif. Investis sur toi pour éventuellement être productif, puis ça va se rentabiliser fois 100.
Oui, vraiment, vraiment. T'sais. Des fois, les gens sont comme, oh, je vais attendre d'être en forme pour te contacter, mais comme, c'est le contraire, là, justement. Non. Fais-toi aider, fais-toi accompagner. Puis juste le fait de devoir, entre guillemets, des comptes à quelqu'un, en tant qu'humain toute seule, de se garder accountable, de se responsabiliser. C'est souvent très difficile, surtout pour des choses qui ne sont pas encore intégrées à 100%. Je veux dire, brosser les dents le matin, comme si, j'espère en tout cas, que c'est intégré. Tu n'as pas besoin de te motiver, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te check. Hey, t'as-tu brossé tes dents ce matin? Tu le fais automatiquement, tu le sais que c'est important pour ta santé buccale, etc. T'sais. Mais quand c'est nouveau pour toi de mieux manger, de faire tes lunchs, de méditer, de courir, de marcher, de prendre du temps en nature, de lire des livres, ben, tu as besoin de ces sources-là externes souvent mm-hmm. pour te responsabiliser, pour que tu le dises à quelqu'un, que ça soit fait effectivement. Dans la bienveillance et dans le non-jugement le plus possible, tu sais.
Mm-hmm. Effectivement. Mm-hmm. Puis ce qui me ramène un petit peu à l'astérix que j'ai mis tantôt, oui. Mais juste avant, je vais refaire une parenthèse parce que puis ça mène à cet astérix-là. C'est qu'un jour, j'ai eu une cliente au niveau alimentaire qui avait des périodes comme ça d'hyperphagie où elle mangeait. Tu sais, c'était ni de la boulimie, c'était pas un problème assez mm-hmm. grave pour faire partie de la psychologie, voir un psychiatre ou un psychologue, mais tu sais, il y avait ça. Puis... on a observé ça ensemble, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que derrière, il y avait une immense culpabilité. Tu sais, tu parlais des émotions ouais. derrière ce que c'est la solitude. Et elle, c'était une immense culpabilité pour une histoire spécifique que je ne raconterai pas, mais que j'ai déjà racontée dans un podcast. Et ça m'amène à ton idée de perfectionniste. Parce que ce que j'ai mm-hmm. réalisé à travers mes années de pratique, c'est que derrière mes petites perfectionnistes que j'appelle, qui veulent donc être parfaites au bureau, à maison, avec les enfants, avec le mari, nanana, il y a une grosse part de culpabilité en dessous de ça. Mais ce n'est pas une culpabilité de « j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je répare ». C'est une culpabilité qu'on appelle la culpabilité fondamentale, dont je parle beaucoup dans d'autres podcasts, qui se crée dans l'enfance très, très jeune et qui se traduit tout au long de la vie dans un sentiment de « je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisante, je dois faire mm-hmm. plus pour prouver ma valeur » ou ouais. « je ne mérite pas ». Donc, et ça, là, s'il y a une révélation que j'ai eue dans mes 6 années de pratique, c'est ça. C'est qu'en mm-hmm. dessous de la majorité des problèmes, il y a cette espèce de culpabilité fondamentale qui ouais. pousse particulièrement les femmes, parce que moi aussi, ma clientèle est principalement constituée de femmes, à vouloir se défoncer. Puis là, ils arrivent chez nous, ils sont complètement vidés de cette espèce de pression-là qui se met sur les épaules. Et c'est un peu pour ça que j'ai mis en place une formation qui s'appelle « S'affranchir de la culpabilité ». Parce que je me rends compte que dès qu'ils travaillent ça, tout le reste va mieux. C'est-à-dire, ils arrêtent de se saboter parce que j'ai vu des gens ne pas faire ce qu'ils avaient à faire. On va appeler ça de l'auto-sabotage parce qu'ils avaient l'impression de ne pas le mériter.
Ouais.
C'est vraiment spécial. Comment tu gères ça un peu, ces perfectionnistes-là, comme toi, tu étais aussi? Là, tu dis, ouais. je me donnais du temps, une heure, mettons, où j'avais le droit d'être imparfaite. Mais mm-hmm. on sait que c'est une émotion qui est intense. Moi, je le vois quand je leur donne des exercices, ils paniquent, il y a une anxiété qui monte parce qu'ils sont convaincus que s'ils ne font pas ça, ils vont être rejetés.
Oui. Non, c'est le travail d'une vie, c'est une situation qui touche, tu sais, encore une fois, je ne dirais pas tout le monde, là, mais la grande majorité des gens, surtout les femmes, pour justement cette pression-là qu'on se met et qu'on se fait mettre, qui est sur notre dos depuis mm-hmm. des années et des années et des années et des années, là, qui est une autre conversation, tu sais. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai surtout fait pour moi, c'est qu'au lieu d'essayer de me défaire de l'étiquette de perfectionniste, j'ai surtout mis mon attention sur comment je peux augmenter mon estime de moi. Puis comment je peux commencer à croire que j'ai de la valeur puis que juste mon être est suffisant. Fait qu'en faisant toutes sortes de choses, je me suis fait accompagner, j'ai eu des coachs dans différents domaines, des coachs en mindset, j'ai fait l'hypnose, j'ai vraiment travaillé profondément sur moi. Mes voyages aussi, ça m'a ouvert à tellement, tellement de belles choses qui m'ont aidé dans ce processus-là. Et c'est comme si la pression du perfectionniste, mm-hmm. tranquillement, est partie. Tu sais, pas à 100%, mais de focaliser notre attention sur ce sur quoi tu as le contrôle. Puis moi, j'ai beaucoup une stratégie d'ajout dans mon coaching. Même chose pour la nutrition. Au lieu de se dire hey, « tu n'as plus jamais le droit de manger du sucre de ta vie », est-ce qu'on peut rajouter un légume? Est-ce qu'on peut rajouter mm-hmm. un verre d'eau? Est-ce qu'on peut rajouter une protéine? T'sais? Je trouve que pour le cerveau, c'est beaucoup plus agréable d'être en mode « j'ajoute des choses » que « je suis en mode restriction ». Fait que j'ai fait un peu la même chose avec mon développement personnel. Est-ce que je peux me rajouter des outils, des pratiques, des habitudes du coaching pour m'aider à croire en ma valeur. Puis plus tu crois que you're worth it, puis que c'était cette valeur-là, ben moins tu as ce besoin-là de te prouver d'être parfaite Parce que si quelqu'un d'autre, puis c'est toute la projection qu'on fait, hein, mais si quelqu'un d'autre projette, que toi, tu projettes que cette personne-là va penser que c'est pas correct qu'est-ce que tu as fait, ou tu n'as pas été assez bonne, ou tu n'as pas été assez ci, mais c'est que ça ne devient plus ton problème à toi personnel. Ton opinion t'appartient. Versus avant, quand tu es beaucoup dans « je dois être parfaite, je dois être parfaite », ben, tu projettes tes propres peurs, tes propres jugements envers toi-même sur les autres, ce qui te garde petite, ce qui te regarde toujours dans la culpabilité, la honte, etc. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que j'encourage mes clientes à faire aussi, tu sais. Puis on se rend compte que ça prend moins de place. Puis l'autre chose aussi que j'ai faite, c'est que j'ai remercié mon étiquette de perfectionniste parce qu'on évite à pointer du doigt les choses qu'on n'aime pas sur nous, hein, puis les choses où est-ce que justement, ah, j'ai tel défaut ou j'ai tel trait de personnalité que j'aimerais pas avoir, ou ah, je veux me défaire de mon étiquette de people pleaser ou de workaholic. Mais j'ai pris le temps de la remercier, cette étiquette-là de perfectionniste, parce que ça m'a amené vraiment des belles choses. Mm-hmm. Ça m'a servi. J'ai atteint des beaux succès dans ma vie très jeune grâce à ce désir-là de me dépasser puis d'essayer de frôler la perfection. Fait que merci. Mais à ce stade-ci de ma vie, j'ai plus autant besoin de toi. J'ai envie d'être humaine dans mon imperfection, tu sais.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour se débarrasser de la culpabilité, la première chose à faire, c'est d'arrêter de se juger. Fait qu'en acceptant cette étiquette-là que tu t'es donnée, de dire « ben merci, je suis en train de dire que c'est pas grave, là. » Là, on va arrêter de se juger, de se taper sur la tête. Tu as parlé d'augmenter l'estime de soi. Moi, j'ai remarqué que c'est extrêmement lié justement à cette culpabilité-là. Puis je vois que c'est pas quand même quelque chose de facile, parce que, et ça, tu sais, j'ai monté une conférence que je vais donner au Salon de l'éveil à Boucherville dans 2 semaines. Au moment où on enregistre, là, peut-être que quand je vais mettre le podcast en ligne, elle va être donnée ou elle va être sur le point d'être donnée. Mais où j'explique ça, que tu sais, souvent quand on fait du développement personnel, on se fait dire « ouais, tu manques d'estime de toi, tu manques d'amour de toi », puis là, on se fait renvoyer chez nous de même. Mais comment je fais, moi, pour m'aimer plus? Comment je fais, moi, pour m'estimer plus? Hey, c'est pas si simple que ça. Et ça m'a pris des années à trouver. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence-là et cette formation-là, de s'affranchir de la culpabilité, parce que j'ai remarqué que ça vient de l'enfance. Et la minute où on arrive à apaiser ça, parce qu'en fait, c'est la peur du rejet. C'est qu'on a perçu qu'on n'était pas suffisant, c'est ce que j'appelle la culpabilité fondamentale, on n'était pas suffisant pour que nos parents nous aiment. Là, on s'est mis à se forcer pour avoir des bonnes notes, pour faire notre lit, pour faire ci, pour faire ça, pour être, comme tu disais, people pleasing, tu sais, faire plaisir à tout le monde, parce que là, on avait de l'attention. Le problème, c'est que ça s'est cristallisé. On a continué comme ça adulte alors que ça fait absolument aucun sens. Mais qu'au contraire, on se brime nous autres-mêmes. Tu sais, comment de fois que j'ai vu des femmes se sentir coupables, puis on en a parlé d'emblée, tu sais, hey, je me sens coupable parce que j'ai pris une fin de semaine pour moi avec mon chum, j'ai fait garder les enfants, hey, je me sens coupable parce que là, je me suis inscrit à un cours de yoga, je me sens... Mais voyons, c'est parce que tu as le droit de vivre toi aussi, là.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, c'est tellement de recadrage mental à faire, mais comme c'est émotionnel, ça revient au chip, c'est plus fort que nous autres. Cette émotion-là prend le dessus. Donc, ça prend vraiment du temps, des méthodes pour arriver à apaiser ça puis dire non, j'en ai de la valeur, je suis unique, j'ai pas à me comparer aux autres, j'ai des forces, j'ai des faiblesses comme tout le monde, c'est pas les mêmes que les autres. Puis, qu'est-ce que je veux, moi, de ma vie? Et là, tranquillement, tes why vont prendre la place, parce que c'est beaucoup la mode de ce temps-ci, je le vois, là, tu sais, deviens la meilleure version de toi-même, libère-toi de tes chaînes, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Tu sais, il y en a plein de formations, d'ateliers. Et je me rends compte qu'à la base de ça, défait la culpabilité fondamentale, ton estime, ta confiance, ton amour vont monter et tout le reste de cet atelier-là, là, va fonctionner. Puis tes résultats, tu vas les avoir, tu sais, à partir de là. Ouais. Tu vas arrêter de te saboter, par exemple.
Absolument. Puis tu sais, si on vient à l'espèce de discours des saines habitudes de vie, bien, souvent, on va entamer une démarche de remise en forme, de perte de poids, de prendre soin de sa santé, d'une énergie de « on ne s'aime pas ». Tu sais, et pourtant... Et pourtant, on devrait bien s'alimenter, puis avoir des belles habitudes de vie, puis bouger son corps, parce qu'on devrait célébrer le fait qu'on est dans un corps humain, puis on veut avoir une belle santé, puis tout ce que ça amène. Mais à la base, parfois, on s'oblige quasiment à débuter ce processus-là ou à recommencer un processus parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on se trouve trop grosse, parce qu'on se trouve poche, parce qu'on se trouve X, Y, Z, tu sais? Puis ça, c'est encore une fois, pour pas dire tout le temps, mais c'est très souvent voué à l'échec, en fait.
Ouais.
Versus le faire d'un espace de « OK, c'est tellement correct d'avoir des choses que tu veux améliorer sur toi, c'est tellement correct de vouloir évoluer et c'est tant mieux. » Tu sais, on est fait pour progresser, pour évoluer, pour s'améliorer, pour faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais justement, parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie de profiter de cette vie-là avec toutes nos belles capacités puis toutes nos couleurs. Fait que oui, on peut avoir un objectif de perte de gras parce qu'on va se sentir mieux dans notre peau si on pèse moins, mais comme parce qu'on aime notre corps puis on a envie de donner toutes les belles choses au quotidien. Fait que juste de changer ce mindset-là, la prochaine fois, vous donnez un objectif. Oui, le why, mais c'est quoi l'émotion qui initie, en fait, cette décision-là? Parce que, je veux dire, ça. Tu vas attirer ce que tu projettes. Fait que si, dès le départ, t'es misérable, parce que t'es comme, bon, là, faut que je perde 20 livres, puis là, je vais être obligée d'aller au gym, puis là, ça va être genre, je vais falloir que je prenne des petits jus verts le matin, puis j'haïs des épinards et des céleris. Ça va être tellement désagréable comme processus. Puis en tant qu'humain, genre, tu l'as dit, on est paresseux, on veut faire des choses qu'on aime qui sont faciles. Fait que comment est-ce qu'on peut rendre le processus plus agréable, plus accessible, tu sais, en lien avec nos intérêts. T'adores faire le vélo de montagne, j'aime ça, moi, aller au gym. Ben, c'est facile pour nous de le faire parce qu'on aime ça. Tu sais, fait que trouvons une façon de prendre soin de nous qui est agréable, tu sais.
C'est le fun, ça, parce que c'est un beau changement de perception. Je le fais pas parce que je me trouve piece of shit, là, tu sais, mais je le fais parce que je m'aime et que j'ai envie de m'améliorer, ou des fois juste de ne pas dégrader.
Ouais.
Moi, je veux m'améliorer, mais personnellement, rendu à 47 ans, je ne veux pas trop dégrader. Particulièrement, j'ai regardé mon père, physiquement, il est resté en forme quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Le problème, c'était le cerveau. C'était Alzheimer et tout ça. Fait que j'ai fait des études un peu là-dessus, et je me rends compte que c'est lié à l'inflammation. Donc, l'inflammation me porte à dire, OK, là, maintenant, à l'âge que tu as, il faudrait peut-être que tu surveilles vraiment plus serré ton alimentation.
Ouais.
Fais-tu des choses par rapport à ça, l'inflammation, les gens qui viennent te voir, parce que ça peut sortir de toutes sortes de façons, l'inflammation. Ouais. Moi, j'ai peur de l'Alzheimer, mais il y en a que ça va être de l'arthrite, d'autres, ça va être autre chose. On dit que l'obésité, c'est de l'inflammation aussi.
Oui, l'inflammation chronique, parce que c'est important de faire la distinction, parce que je veux dire, si je me coupe et que je saigne, j'en veux de l'inflammation pour aider le processus de guérison. Ouais. Mais l'inflammation chronique dans notre environnement interne a fait 99,9% de notre santé. On le dit aussi en plus, le gut qui est comme notre deuxième cerveau. Ouais. Hein? On ne peut plus ignorer l'effet. On parle d'alimentation, il y a d'autres choses qui influencent notre inflammation, mais c'est beaucoup ce qu'on mange, hein, ce qu'on met dans notre environnement interne. C'est incroyable à quel point il y a des gens qui sont en inflammation chronique et que par justement l'intégration des meilleures saines habitudes de vie, entre autres par la nutrition, sans faire des méga protocoles intenses non plus. Des fois, oui, il faut faire des choses un peu plus structurées, strictes, poussées, mais à quel point ça diminue, le poids très souvent. Mais les douleurs articulaires, le brain fog, la difficulté à se concentrer, la dépression, l'anxiété, l'humeur. Ouais. Fait qu'on va même dans ces aspects-là de la santé.
Ouais. L'immunité.
Oui, ta digestion, la façon que tu élimines, si tu as des boutons, etc. Mais ça affecte vraiment, vraiment tout, tu sais. Fait que stress chronique, inflammation chronique, je pense que c'est vraiment le fléau du 21e siècle. Là. Genre, c'est pour toutes sortes de raisons. Fait que,
comment les gens font pour le savoir? Là, tu as nommé plusieurs symptômes, mais pourquoi les gens sont pas ça? Puis, tu sais, moi, c'est ce qui me fascine parce que je le dis souvent, pour moi, tout ce qui est chronique a soit une problématique, je vais dire alimentaire, mais je vais appeler ça style de vie, là, ou psychosomatique, parce que je le vois, des émotions créent des choses. Absolument. Mais quelqu'un qui veut vraiment trouver qu'est-ce qui crée de l'inflammation en lui, parce que des fois, il y a des aliments qui sont inflammatoires pour tout le monde. On va prendre l'alcool. Mais puis je pense les gras trans. Mais il y a des choses qui sont spécifiques. Tu sais, comme moi, le gluten, c'est inflammatoire pour moi, mais c'est pas tout le monde. Les produits laitiers, c'est inflammatoire pour moi, mais c'est pas tout le monde. Même les grains, en général, j'ai remarqué, même des fois sans gluten, vont me créer... Moi, je le vois par de la rétention d'eau.
Mm-hmm.
Je me sens plus gros, je me sens bizarre. La nuit, je me réveille, j'ai le bras engourdi. Là, je sais que je fais de la rétention d'eau. Ça veut dire qu'il y a un peu d'inflammation. Mais comment t'approches ça, cette inflammation-là, un petit peu plus concrètement? Mm-hmm. T'as-tu des listes d'aliments sur Internet que tu dis, ben ça, mangez-les pas, ça, mangez-les? Y a-tu des tests qu'on peut faire? Je mange ça, puis là, surveiller comment je me sens, je sais pas.
Mm-hmm. Oui, c'est très, on pourrait parler de 15 heures de cette question-là, mais rapidement, moi, je travaille beaucoup en principe d'entonnoir, ce qui veut dire qu'en premier lieu, on commence avec les piliers fondamentaux de base en nutrition. Puis la plupart des gens, ils font même pas ça de façon constante. Fait que par exemple, hydratation, est-ce que tu bois assez d'eau, puis surtout, est-ce que tu absorbes l'eau que tu bois, est-ce que c'est de l'eau de qualité, etc. Est-ce que tu as une constance dans la fréquence de tes repas ou tes collations dans la journée? Est-ce que tu es du genre à grignoter toute la journée? Est-ce qu'il y a une journée que tu manges une fois par jour, le lendemain sept fois, tu sais? Fait que ça, c'est un autre pilier. Fait que bref, j'ai quelques piliers comme ça. Et là, on voit comment le corps réagit et souvent, ça va déjà beaucoup mieux. Les gens vont mieux digérer, avoir plus d'énergie, mieux dormir, perdre du poids, etc. Après, une fois que ça, c'est bien installé, bien là, on peut aller voir justement dans la nature un peu plus spécifique de certains aliments. Donc, effectivement, les aliments que pour tout le monde, ça va créer de l'inflammation. T'en as nommé, tu sais, quand je pense à l'alcool, à tout ce qui est transformé, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment loin de pousser dans la nature, là. Des choses qui restent sur les étagères pendant des années de temps. La plupart des aliments dans les restaurants aussi. Tu sais, fait ce qu'on le sait, si tu manges une poutine puis un burger, ben du resto, d'après moi, tu vas avoir de l'inflammation, tu sais. Après ça, on va dans l'autre catégorie qui est des aliments qui, effectivement, comme le gluten, comme les produits laitiers, c'est peut-être pas des aliments qui vont causer de l'inflammation pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais, par exemple, surtout en Amérique du Nord, c'est de plus en plus commun par la qualité de notre nourriture qui dégrade d'année en année, par nos sols qui sont de moins en moins riches de minéraux, par la façon qu'on fait, qu'on crée, qu'on produit des aliments avec, par exemple, des pesticides et autres, tu sais. Fait que, tu sais, gluten, produits laitiers, soya pour beaucoup de personnes.
Ouais, soya, c'est infernal.
Maïs, tu sais, qui se digère vraiment pas pour la part des gens. L'arachide, qui est souvent très, très contaminé. Il y en a pour qui, ça, après ça, ça peut être tout ce qui est dans la catégorie des nightshades, qu'on dit en anglais, comme piment, patate, aubergine, des œufs pour certaines personnes. Fait que, tu sais, là, on tombe vraiment dans des aliments plus spécifiques.
Plus spécifiques à la personne.
À la personne. Je dirais que j'ai rarement vu quelqu'un enlever le gluten puis enlever les produits laitiers de son alimentation puis pas se sentir mieux.
Mm-hmm.
Fait que ces deux catégories d'aliments-là, malheureusement, essayez-le, coupez-les complètement pendant minimum un mois, puis voyez comment vous vous sentez. Puis après ça, réintroduisez une petite chose à la fois. Souvent, encore une fois, une crème glacée versus un fromage vieilli de bonne qualité, ils ne vont pas avoir le même effet, tu sais. Mais faut, tu sais, une fois qu'on a ces comme grosses bases-là, qu'on a fait un ménage dans l'alimentation, puis qu'on va aller chercher un petit peu plus en profondeur, bien, c'est un peu de l'essai et l'erreur individuelle où il y a effectivement des tests qui se font. En laboratoire, des prises de sang pour voir le niveau d'inflammation. Il y a des tests d'intolérance à certains aliments. Il y en a de tous les coups, là. Mm-hmm. Je les connais vraiment pas tous, tu sais. Mais de commencer au moins avec la base, tu sais, d'éliminer le plus possible ces sources-là,
mm-hmm.
de manger le plus près de la nature possible, au moins 90 % du temps. On va déjà avoir un gros bout de chemin de fait là, pour s'aider avec l'inflammation interne.
C'est pas facile. T'sais, moi, je le vois surtout quand je sors de chez moi. Du gluten, il y en a partout. Du soya, il faut que je me surveille. Du
sucre, il y en a partout.
Et là, j'ai découvert la semaine dernière un nouvel aliment que j'adore, mais que finalement, il ne me fait pas. C'est les cachous. Moi, j'avais déjà coupé les arachides, puis j'adore les noix. T'sais, j'ai tout des sacs de noix chez nous, pacanes, amandes, pistaches et tout ça. Et j'avais des cachous. Et j'ai mangé deux bonnes poignées de cachou et une heure après, j'avais du mucus. Là, je toussais comme si j'avais un rhume. Puis là, je crachais du mucus. Et j'avais jamais remarqué, mais j'avais remarqué quand je mange trop de produits laitiers, ça me fait ça. Là, j'ai fait, ah ben, tabarouette, les cachous aussi. Puis j'avais déjà lu à quelque part que les cachous, c'était pas tout le monde. C'était quasiment proche de l'arachide. Là. Fait que là, j'ai dit, calif, il me semble que...
C'est pas facile.
Je deviens de plus en plus limité.
Ouais.
Dans ce que je suis capable de manger. Puis là, je me dis, c'est-tu parce que je vieillis? Parce que tu as parlé des œufs. Moi, avant, les œufs, j'avais pas de problème. Oh, je me rends compte que là, quand j'en mange, je viens légèrement ballonner. Et puis enflé. C'est-tu grave? C'est-tu pas grave? Ça fait-tu de l'inflammation? Je le sais pas trop. Mais tu sais, je commence vraiment à être de plus en plus limité dans ce que je mange.
Ouais, puis il y a plusieurs facteurs dans ce que tu dis. C'est pas évident. Il n'y a pas une recette, un plan alimentaire, une façon de manger qui fonctionne pour tout le monde. Fait qu'il faut vraiment maîtriser les bases, les bons piliers, puis après ça, aller chercher qu'est-ce qui fonctionne pour soi, qui peut aussi évoluer à travers nos âges puis les différentes phases de vie. Il y a le facteur de la qualité de la nourriture qui, malheureusement, va en dégradant. Fait que c'est sûr que ça nous affecte aussi en tant que consommateurs de cette bouffe-là. Puis aussi, tu sais, c'est vraiment d'y aller avec. Prendre le temps d'écouter son corps. Puis ça aussi, c'est une phrase qui est bien populaire. Tu sais, écoute ton corps, écoute ton corps, écoute ton corps. Mais on est aussi beaucoup pressé, distrait. On est sur le pilote automatique. On vit nos journées rapidement, une journée après l'autre, sans s'arrêter. Fait que comment tu peux vraiment savoir si tu avais été quelqu'un pas en conscience de soi, qui est en mode go, 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 24 heures sur 24, sauf quand tu dors, tu l'aurais peut-être même pas remarqué, cette réaction-là, après avoir mangé tes cachous, tu sais. Fait que je pense que c'est le message principal que j'ai envie de dire par rapport à l'inflammation, la nutrition, prends un moment, au moins une fois par jour, pour faire un scan corporel, puis écouter, t'as-tu tes petits symptômes? Ah, oh, j'avais pas marqué, j'ai un petit mal de ventre. Ah, oh, j'avais pas marqué, j'ai une petite tension dans l'épaule. Si on prend même pas le temps d'écouter nos propres symptômes et ressentis physiques, parce que le corps envoie tellement de
Ben oui.
messages, mais souvent, on les écoute pas. Fait que de commencer juste là, ça va vous donner des indications individuelles sur votre environnement interne, votre individualité, votre inflammation. Puis, on normalise beaucoup trop de symptômes. Puis ça aussi, c'est peut-être une toute autre conversation, là, mais c'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta
Effectivement,
journée. C'est pas normal en
effectivement.
tant que femme d'avoir des méga crampes avant de tomber dans ta semaine. C'est pas normal d'être fatiguée à chaque fois que tu te lèves le matin. Mais parce que c'est très commun, puis qu'il y a bien des gens qui vivent ça, ben on normalise. Mais non, ton état à la base,
C'est
c'est
ça.
d'avoir de la vitalité, c'est d'être en santé, tu sais. Fait que
Mais
écoutons-nous, genre, ces petits
on
signaux-là.
se faisait dire plus jeune par nos parents, arrête de focusser sur tes petits bobos, là, c'est normal, là, pas, t'sais, passe à autre chose. Moi, je remarquais, surtout dans l'époque où je faisais de l'herboristerie, puis au début, quand je faisais beaucoup de gens avec des douleurs chroniques, les questions de base que j'avais apprises, c'est tes selles sont comment? Ah, mes selles sont correctes. Oh oui, mais sont comment? Là, ils sont gênés. J'ai dit, c'est-tu une belle O'Henry, là, une belle barre de chocolat, 2 fois par jour au moins? Ah ben non. Ah ben non, moi, j'y vais aux 2 jours, puis tu sais,
Ben,
j'ai dit,
c'est
c'est quoi? Des
ça.
fois, c'est boiteux, puis des fois, c'est dur. Ben oui, bon, ben, t'as probablement un côlon irritable. Puis tu le sais pas. Tu sais, je me souviens, mon père, toute sa vie, c'était ça, là. Il utilisait du agarol, là, un genre de laxatif. Puis quand c'était pas ça, ben souvent, tu sais, comme je dis, ben c'était en boîte. Mais c'est pas
Exact.
normal. Ta
Non,
selle,
c'est
c'est
ça.
supposé d'être une belle O'Henry. Ça, c'est un signe que ça a été absorbé, les nutriments, que les déchets ont été là, qu'il y a
C'est une
assez de
bonne variété de
bile.
bactéries dans ton
Ben,
cas,
c'est
tu
ça, tu
sais, puis
sais, que
absolument.
la couleur, puis les gens ne savent pas ça. Moi, j'ai chanceux, j'ai appris ça à 19 ans quand j'ai fait mon cours d'herboristerie, puis tu sais, j'essaye toujours de me maintenir. Mais là, ça, je suis correct. Là, je le vois par la rétention d'eau que je fais. Parce que des fois, ce n'est pas du sel. Oui, quand je vais manger trop de sel, je vais en faire. Mais des fois, c'est des aliments. Tu as parlé du maïs. Cette semaine ou la semaine dernière, j'ai mangé des nachos. Ouf, je suis venu le ventre enflé, là, instantané. Mais le problème après, c'est que ça dure plusieurs jours. Je bois juste un verre d'eau, puis je viens enfler. Fait que de
Ben c'est
tenir un
ça.
agenda, ça aide, puis de se dire, ton inflammation, là, une fois que tu l'as créée, demain, elle ne sera pas partie. Ça peut prendre 3 semaines avant qu'elle parte.
Ouais, exact.
Même plus, je pense que.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que de faire un journal alimentaire, pas encore une fois pour vouloir être parfaite puis se taper sur la tête si on a écrit qu'on a mangé un morceau de gâteau au chocolat, mais pour avoir des données, pour pouvoir observer ça, parce que peut-être que tu as ta réaction pas longtemps après, dans l'exemple de tes cachous, mais peut-être que si le lendemain matin, tu as une diarrhée, tu as un gros mal de ventre, tu as une réaction inflammatoire, c'est peut-être pas nécessairement ce que tu as mangé au déjeuner, c'est peut-être l'effet chimique que ton déjeuner a causé avec ce que tu avais mangé la veille. Parce qu'une réponse inflammatoire peut durer effectivement de 2 heures à plusieurs semaines. Et fait qu'il faut se donner le temps à notre corps de faire ces changements-là, de guérir de l'intérieur. T'sais, fait que c'est pour ça que des fois, il faut faire, oui, des moments dans la vie où est-ce qu'on est un peu plus strict, un peu plus structuré, un peu plus intentionnel avec la qualité de nos aliments pour ressentir, hey, j'avais pas remarqué, mais mon Dieu, c'est vrai que j'avais pas d'énergie le matin. Ou, hey, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai plus mal à la tête en fin de journée. Mm-hmm. T'sais? Fait que donnez-vous la chance, ce cadeau-là, d'être en pleine santé. Puis on vise pas la perfection non plus avec nos habitudes alimentaires. J'en mange du popcorn de temps en temps, puis je vais en manger un biscuit à ma mère, t'sais, mais c'est intentionnel, c'est mm-hmm. conscient. C'est 10 % de ma vie, puis 90 % du temps, ben, je suis qu'est-ce qui va bien pour moi dans mon corps, dans mes performances sportives, parce que j'aime mon corps, tu sais.
Ouais, c'est fait ça.
C'est d'approcher ça différemment, bref.
Moi, j'ai trouvé beaucoup de problèmes dans ma vie avec un journal alimentaire. Mais ce que je faisais, c'est que j'écrivais tout ce que je mangeais et buvais dans la journée. Mm-hmm. Et sur 10, mes niveaux de symptômes, je choisissais des... Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des vertiges positionnels, donc combien? Et mon niveau d'énergie sur 10. Et tu peux pas le voir en dedans d'une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est quand ça faisait là, presque trois mois, là je pouvais tourner les pages et dire, regarde... À chaque fois qu'il cite c'est trop haut ou que c'est trop bas, qu'est-ce que j'ai mangé la journée ou les deux journées avant?
Mm-hmm.
Et à un moment donné, ça n'a pas été long que j'ai fait des liens. Tu sais, à un moment donné, quand à chaque fois que tu as des vertiges, la veille, tu as mangé du fromage, tu dis ouais. Puis là, je mangeais une pizza, puis whoop, le lendemain, j'avais des vertiges, c'est bon. Là, ça commence à être clair. Fait que j'ai compris que moi, je peux manger des fromages, mettons, de chèvre ou des fromages vieillis de qualité, comme tu as dit, j'aime bien le cheddar fort, mais fais-moi pas manger du mozzarella ou des fromages, du fromage en crotte, ça passe pas.
C'est ça.
Il faut qu'il soit plus, je sais pas comment dire, fermenté ou travaillé par les bactéries, mais c'est de même que j'ai découvert pour la bière aussi.
Mm-hmm.
Puis au début, je m'en suis pas rendu compte, parce que après deux, trois jours que je notais, je me disais, regarde, je n'ai pas bu de bière, puis je suis encore tout le ventre enflé, donc c'est pas ça.
C'est ça. Ça prend plus de temps que ça,
Moi, j'ai réalisé que ça me prenait trois semaines à arrêter d'avoir le ventre enflé. Puis j'ai lu dans... quand j'ai lu dans des livres qu'il y en a que ça pouvait être plus long que ça encore, se calculer en mois, et que la fois d'après que ça refait ça, j'avais bu de la bière la veille, là, j'ai fait non, c'est vraiment la bière.
Mm-hmm.
Et, tu sais, fait que là, j'étais en mesure de le couper. Et puis, comme on disait tantôt, ça a été long, là. Hey, au début, je cravais, là. Je voyais mes chums avec de la bière, puis ah, si, je n'aurais pris une, surtout quand il faisait chaud. Mais j'ai fini par trouver des alternatives. Maintenant, je bois du cidre de pomme à l'occasion.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, puis à ce temps, j'ai plus le goût de boire de la bière. Donc, tu sais, tout se modifie dans le cerveau. Donc, tout est une question de répétition, puis on finit par l'avoir.
Ouais. Puis de patience, puis de se donner le temps. Tu sais, on se fait vendre, perd 10 livres en 3 heures, puis perd 20 livres en 30 jours avec tel défi. Puis, mais c'est faux, en fait. C'est faux. Surtout pas pour des résultats durables, des habitudes intégrées sur le long terme.
Mm-hmm.
Puis moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que le temps va passer quand même. Fait quand j'ai des clients qui sont comme « Ah ouais, tu veux que je commence avec 3 fois 10 minutes de marche par semaine, comme ça va me prendre 7 ans avant de devenir une personne active qui sent... » Mais le temps va passer quand même.
Mm-hmm.
Ça fait combien d'années que tu essaies quelque chose puis ça marche pas, tu recommences à zéro, puis que tu essaies puis tu recommences à zéro. Là, ce qu'on va intégrer, ça va durer pour toujours, tu sais, ou presque. Mm-hmm. Fait que il y a ça aussi qu'il faut se dire, le temps va passer quand même. Fait qu'on est aussi bien de le commencer avec une démarche lente, progressive, mais sûre et agréable à s'écouter, que ce soit par un journal alimentaire, que ce soit par écrire comment on utilise notre temps, que ce soit par peu importe, tu sais, pour que, encore une fois, ça dure. La santé, ça n'a pas de date d'expiration, sauf quand on décède. Fait qu'est-ce qu'on peut, oui, vivre plus vieux, mais surtout vivre plus vieux en santé.
En santé.
Moment, c'est pas ça qui se passe au Québec. Là. Vraiment, vraiment pas. On vit plus vieux, mais on rentre dans le service de santé, le système de santé, pardon, plus tôt, quasiment 15 ans avant de mourir. Mm-hmm. Fait que c'est 15 ans de souffrance, de dépenses pour l'État, les citoyens, tu sais. Fait que est-ce qu'on peut tous ensemble s'aider à aller mieux pour non seulement vivre plus vieux, mais surtout vivre en meilleure santé, tu sais.
Puis là, même cette courbe-là de vivre plus vieux, c'est plus vrai, elle descend. C'est ce que j'ai vu des dernières statistiques, surtout aux États-Unis. L'espérance de vie, pour la première fois, s'est mise à descendre. Mettons, depuis les derniers 100 ans, où ça montait à cause de la médecine, la qualité de vie qu'on avait. Mm-hmm. Là, c'est l'inverse. Les gens meurent de plus en plus jeunes. Et... pour la première fois, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens dans les pays dits sous-développés, pauvres, vivent plus longtemps que les gens aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Avec toutes les ressources qu'on a, c'est vraiment une question de responsabilité individuelle, tout ça.
Absolument.
Donc, le temps passe, Claudia.
Super intéressant.
En terminant, j'aimerais ça juste que tu me dises quelques mots sur ton podcast. De quoi tu parles exactement? C'est-tu à toutes les semaines ça, que tu fais ça? T'as-tu des invités? Tout ça? Puis c'est quoi le titre? Les gens vont te trouver où?
Ben oui, merci beaucoup. Fait que ça s'appelle Conversation Awesome avec Carmackin. Awesome, qui est un mot que moi je dis tout le temps, fait que ça fait partie de mon brand. Puis j'ai un épisode par semaine qui sort les jeudis matin en alternance avec des épisodes solo puis des épisodes avec des invités. Et c'est toutes sortes de sujets en lien avec un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais, le bien-être, les habitudes de vie, des histoires de développement personnel, de changement de carrière, de la spiritualité. Fait que j'ai autant des épisodes style masterclass, genre justement comprendre la digestion 101, comment mieux dormir ce soir, comment avoir moins craving de sucre, qu'il y a des épisodes où est-ce qu'on parle d'astrologie, qu'on parle de vie nomade, qu'on parle de justement changement de carrière à 50 ans, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une belle variété de conversation. D'ailleurs, Pascal, j'aimerais t'inviter, moi aussi, sur mon podcast pour qu'on poursuive
Oh, ben ça
ce
me
qu'on a
fait
jasé
plaisir.
aujourd'hui. Fait que les gens qui écoutent, vous allez pouvoir découvrir ça en même temps. Fait que, il est disponible sur toutes les plateformes populaires, là. Vous pouvez aller sur mon site web aussi, carmackin.ca/podcast. Vous allez voir les épisodes là,
Ouais.
ainsi que toutes les plateformes où est-ce qu'il est présent.
Ben, je vais mettre les liens de toute façon. Je fais toujours ça, là, les gens le savent. En description de l'épisode, il y a toujours un paquet
Parfait.
de liens intéressants. Je mets les divers liens de mes invités. Je mets les liens aussi avec mes formations, mon site
Super.
internet, ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'est plus facile parce que souvent les gens sont dans l'auto, ils écoutent ça sur le cellulaire.
Ouais.
Donc, de juste descendre,
Je
cliquer
fais la
sur
même
le
chose.
lien, puis ça roule directement. Donc, faites pas d'accident pour prendre ça en note, là. Vous allez avoir tous les liens en description de l'épisode. Good.
Génial.
Hey, fait que je te remercie vraiment beaucoup, Claudia. Ça va me faire plaisir de participer à ton podcast. On trouvera soit un autre sujet ou on continuera un peu sur le même sujet. Parce que comme tu as dit, dans tout ce qu'on a jasé, chaque sujet pourrait devenir quasiment
Oui.
un autre sujet où on développe pendant 1 heure de temps. Mais là, à un moment
C'est
donné,
ça.
il y a quand même une limitation. Donc, on se
Non.
recontacte. Je te remercie encore beaucoup. Puis j'invite les gens à aller visiter tes liens, puis aller écouter ton podcast.
Génial. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute.
Bye, bonne journée. J'espère que tu as apprécié cette entrevue avec Claudia, qui, comme tu as pu le remarquer, n'a pas la langue dans sa poche et a beaucoup à partager. Je t'invite à visiter les liens en description pour en savoir plus sur elle et sur moi et nos projets respectifs, ateliers, formations et même voyages thématiques awesome, comme dirait Claudia, parce que oui, on organise chacun de notre côté un super voyage là, pour l'année 2024. Donc, va chercher les informations. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.